Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Alors Profil, rappelons-le, signifie protestant filmophile. Cette association est d'origine et d'inspiration protestante et, comme son nom l'indique, a pour centre d'intérêt le cinéma. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Par Elisabeth Pérez.
Bonjour
Elisabeth. Et par Tatiana Zazulianski. Bonjour Tatiana. L'objectif de cette émission est de présenter plusieurs films importants sortis ce mois-ci et d'en débattre. Nous en avons choisi trois, d'origine et de contenu comme de facture très différents. On aura ainsi l'occasion de parler du premier film du réalisateur iranien Massoud Bakshi, Une famille respectable, du film du Danois Thomas Vinterberg, La chasse, et enfin du dernier film du Roumain Christian Mungiu, Au-delà des collines. Cet échantillonnage sera complété par la présentation de quelques coups de cœur de nos intervenants. Donc d'abord, Une famille respectable. On l'a découvert à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et ce film montre encore une fois la vitalité du cinéma iranien, avec notamment le récent succès d'une séparation d'Ashgar Farhadi. Son réalisateur, Massoud Bakshi, est l'auteur d'une dizaine de documentaires, et c'est son premier long-métrage de fiction. Il dit d'ailleurs que pour lui, c'est la même démarche, et qu'il s'agit toujours, avec d'autres moyens, de témoigner de la réalité de son pays. Son héros, Arash, est un universitaire qui revient dans son pays après 20 ans d'absence et qui va se trouver confronté à une bureaucratie kafkaïenne, à une famille sans scrupules et à une société violente et corrompue. Le film est traversé de nombreux souvenirs de son passé, notamment de la guerre Iran-Irak. C'est un mélange de films d'action à l'américaine, de chroniques familiales et de portraits sans concession de la société iranienne. Tatiana, qu'as-tu pensé de ce cocktail ?
Très intéressant.
Depuis plus de 10 ans, d'ailleurs, malgré ses entraves, le cinéma iranien est l'un des plus vivants de notre temps. Peu de films nous parviennent parmi la centaine tournés chaque année. Ils ont été, pour la plupart, censurés ou interdits. À son propre étonnement, Massoud Bakshi, pour sa part, a reçu les autorisations pour mener à bien le projet d'une famille respectable. Mais après sa présentation à la quinzaine des réalisateurs, il doute de ses chances de le voir sortir en salle dans son pays. Le film fait preuve d'une extraordinaire maîtrise pour un premier long métrage. Massoud Bakshi dit qu'il a vécu les mêmes événements que son héros, connu les mêmes personnes, et que c'est sa longue pratique du documentaire qui lui a permis de montrer les choses simplement pour permettre que l'histoire prenne une dimension universelle. Alors, le film débute comme un polar. Le passager d'un taxi, en route vers l'aéroport, est enlevé et tabassé. Une famille respectable est l'histoire de ce personnage, dont on découvre la trajectoire à travers un montage complexe de scènes du présent, de flashbacks de son enfance et d'archives d'actualité de la guerre Iran-Irak. Arash avait 8 ans quand son frère aîné, Amir, a été tué à la guerre. La mère a sombré dans le désespoir et c'est le jeune garçon qui l'en sort en l'amenant à quitter son mari violent et corrompu pour se réfugier à Shiraz, chez une vieille tante, femme d'une grande bonté. C'est elle qui s'arrange pour envoyer Arash faire ses études en Occident. 22 ans plus tard, Arash est revenu en Iran pour enseigner quelques mois à l'invitation de l'université de Shiraz. Il n'a plus qu'une semaine avant son retour à l'Ouest et brusquement toutes sortes de difficultés de tracasseries administratives s'opposent à son départ. Venu de Téhéran, Hamid, fils de son demi-frère Jafat, débrouille miraculeusement tous les problèmes. Il s'en étonne, mais croit en sa gentillesse et en remerciement accepte d'aller à l'hôpital voir son père mourant, ce qu'il s'était refusé à faire depuis son arrivée en Iran. Dans cet Iran où tout s'achète et tout se vend, la violence et la peur sont constantes. À tous les coins de rue, des flics forcent le passage, toutes sirènes hurlantes. On assiste à des tabassages en règle, des voitures s'encastrent les unes dans les autres, signe d'un univers devenu hystérique. À Téhéran, lorsqu'il y arrive, l'intrigue bascule. À la mort du père, cette famille si puissante et respectable dévoile progressivement tous ses secrets et mensonges. Les seuls personnages positifs montrés par le réalisateur sont les femmes à qui d'ailleurs il a dédié son film. Elles seules se battent encore pour défendre l'intégrité, le respect de l'autre, la famille, ce que les hommes ont renoncé à faire. Celles de l'ancienne génération le péchère basculant dans le renoncement ou la folie. Ce sont les jeunes femmes comme Oda, la sœur d'Amid, qui incarnent l'espoir et l'avenir du pays. À la fin du film, apaisé, Arash marche au milieu des étudiants, dans le soleil, vers le monument de la liberté. Il n'est plus le jouet des événements. Il s'est libéré de ses doutes et de ses peurs. Il a repris confiance en lui comme ces jeunes gens qui l'entourent et qui ont choisi de construire l'avenir du pays plutôt que d'aller vivre une vie meilleure à l'étranger.
Alors, Elisabeth, qu'en penses-tu de ce film ?
Alors, moi, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est à la fois un documentaire, c'est à la fois un polar, c'est à la fois une chronique familiale, c'est à la fois une radiographie politique. Et en fait, ça nous montre un Iran très contemporain qui est peu montré à l'écran. Alors, bien sûr, on retrouve des références à l'actualité, des manifestations étudiantes, la surveillance des professeurs, le culte des martyrs. Mais ça ne constitue pas la ligne dramatique de cette famille respectable. Pour moi, c'est un vrai film de mafia. Voilà. On est pris dans ce rythme en restant toujours au cœur de l'action avec une première scène qui nous montre un enlèvement de nuit par un faux chauffeur de taxi. Et alors, cette scène pourrait s'intégrer dans n'importe quel film d'action américain. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et en même temps, ça nous montre qu'il sait faire de la mise en scène, hein, ce monsieur. Voilà. Ensuite, on est toujours au cœur de l'action. On suit notre héros qui est englué dans toutes ces intrigues familiales, politiques, financières, qui est confronté à toute la surveillance policière, des administrations très compliquées. On le suit, et tout comme on suit le déroulement de l'ascension d'un neveu qui est un petit peu sans scrupule, hein, qui est en même temps, on ne sait pas trop comment le dénommer ce neveu. Le réalisateur, il s'est très très bien gardé le secret et le mystère sur ses motivations. Il est un peu inquiétant, on ne sait pas s'il est religieux, on le voit sortir, on le voit maltraiter sa sœur, sa mère, et on découvre à la fin, et juste à la fin seulement, qu'il est complètement sans scrupules, en réalité, et que son unique motivation, c'est d'empêcher Arash de toucher l'héritage. Voilà. Donc ça, ce qui est vraiment très très intéressant, et très très bien montré, comme disait Tatiana, hein, c'est vraiment l'aspect que le réalisateur a donné aux femmes qui sont vraiment qui entourent Arash et qui semblent, qui voient bien le piège, alors qu'Arash lui ne le sent pas venir.
Jean-Michel ?
Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ce qui est particulièrement original, je trouve, c'est qu'à travers un thriller qui pourrait être le seul élément de plaisir du film et qui ne nous permet pas de lâcher l'image du début jusqu'à la fin, mais à travers ça, ça va beaucoup plus loin parce que c'est une critique de la société iranienne. Et ce qui est très habile, tout de même, c'est qu'il n'y a pas de critique politique explicite. Et qu'en réalité, cette habileté permet de montrer tout de même les effets de ce système politico-religieux tout à fait désastreux à chaque séquence de ce film, avec l'oppression des femmes, le détournement du concept de martyr de la guerre Iran-Irak, pour lequel des images d'archives sont convoquées et qui est particulièrement heureux parce que c'est irréfutable, les autorités ne peuvent pas s'élever contre ça, la perversion des relations familiales et l'assèchement des valeurs traditionnelles au profit d'un courant matérialiste et d'un enrichissement absolument scandaleux. Et la fin du film est très ouverte et très magnifique lorsqu'on voit ce qu'il advient du personnage principal. Absolument. Dont je ne dirai rien.
Ben non, il ne faut rien dire là.
Non, je crois qu'on est tous d'accord. Ce mélange de polar et de documentaire, d'une certaine manière, sur la société iranienne est ce qui fait l'intérêt du film. Ouais. Et c'est vraiment un film effectivement intéressant à voir. Alors passons à la chasse. On pourrait trouver une certaine parenté entre une famille respectable et la chasse dans la descente aux enfers du héros qui se retrouve seul contre tous, ce qui est un thème classique du cinéma, notamment américain. Thomas Vinterberg revient ici en fait sur le thème de la pédophilie qu'il avait déjà traité mais sous un angle très différent avec Feston. Rappelons que La Chasse a reçu à Cannes le prix du jury œcuménique et le prix d'interprétation masculine pour son acteur principal Mads Mikkelsen. C'est un film fort, âpre, sur un sujet difficile et assez actuel, comment la lutte contre la pédophilie peut conduire à condamner un innocent sur la base de ce que dit un petit enfant. Et comment une communauté paisible peut basculer dans la haine. Donc le film est une démonstration implacable de ce que peut faire la lâcheté, le soupçon, la rumeur, la versatilité de l'opinion et aussi l'engrenage du comportement grégaire. C'est une démonstration forte, affirmée, peut-être trop affirmée, voire trop simpliste aux yeux de certains. La critique s'est en effet divisée sur ce film. Alors Elisabeth, qu'en penses-tu ?
Alors la chasse, oui, ben c'est plutôt pour moi comment réaliser un grand film sur un sujet grave et pesant. C'est tout le défi de ce film, hein, avec une métaphore sur la chasse qui s'applique à Lucas, qui est chasseur de son état, et qui devient le chassé, donc Lucas devient le gibier. Car c'est bien une chasse à l'homme à laquelle nous assistons. La ville est petite et là où tout le monde se connaît et se fréquente, la proximité rime avec promiscuité. Et rien de pire que le non-anonymat d'une petite ville lorsque se déchaîne la calomnie. La rumeur enfle, la nouvelle se répand, elle choque, la fureur sera terrible. Et comme dans tout processus de rumeur, les événements vont vite et deviennent totalement incontrôlables. Peu à peu, le film gravit des échelons depuis la confrontation avec la directrice du jardin d'enfants à la haine de toute une communauté. On nous répète que les enfants ne mentent pas, que les enfants occultent la vérité. Les déclarations de la petite fille excitent la vindicte populaire et l'imagination d'autres enfants qui s'y mettent à leur tour à raconter des histoires. Et toutes ces affirmations transforment la vie de Lucas en enfer. Et on voit peu d'adultes dans ce film prendre la hauteur et le recul nécessaire à l'examen de cette situation. Parce que l'accusé est innocent, on rencontre souvent le thème du faux coupable avec des réalisateurs comme Hitchcock, qui s'en sont fait une spécialité, et on est tenu en haleine jusqu'au bout. Là, on est d'emblée mis du côté de Lucas, puisqu'on va assister à ce qui va déclencher le témoignage de la petite Clara, et par là même, on va montrer son innocence. Un cadeau refusé qui va être vécu comme un drame, des déclarations dont elle mesure pas la portée, dans un vocabulaire extrêmement cru, qui n'étonne jamais aucun adulte. Alors comment trouver l'équilibre entre parole de l'enfant et celle de l'adulte ? La question reste posée. Ensuite, c'est bien sûr sous un angle social que cette histoire s'ancre avec ce sujet sensible, avec des thèmes comme les relations d'un individu face à une communauté dans un milieu rural aux traditions viriles très bien ancrées, des accusations infondées, la quête du pardon, la fracture d'une vie et l'espoir de la reconstruction. À partir de là, toute une vie à repenser, un mode d'existence à réadapter, un futur à inventer. Voilà. Comme disait Jacques, le film a obtenu le prix œcuménique parce qu'on retrouve les questions de foi. Foi en l'un des amis chasseurs qui lui reste fidèle. Foi en son père. Le fils de Lucas est toujours là pour le soutenir. Et le film met bien en ligne de mire la figure du père, la place de l'enfant et l'évolution de ce statut père-fils. Et cette foi de Lucas qui croit en l'autre et qui mettra du temps à comprendre toute la tempête qui s'est déchaînée au-dessus de lui.
Merci. Jean-Michel, ton avis ?
Oui, moi je vais être un petit peu plus réservé sur ce film, dont je comprends bien qu'il ait obtenu le jury œcuménique pour les raisons déclinées par Elisabeth, mais je reviens à ce que disait Jacques au début sur le côté un petit peu sommaire et pour moi simpliste de la dramaturgie, parce que il s'agit en fait d'un juste qui est injustement accusé. Il y a un double ressort dans ce film pour le spectateur, c'est le déclenchement de la pitié pour ce juste, et puis en même temps, et ce qui n'est pas mince, de l'admiration pour son courage face à cette vindicte publique, puisqu'il va s'élever et il va riposter. Donc on a là deux motifs de pouvoir être autour de ce juste. Mais c'est quand même un petit peu racoleur, un petit peu caricatural selon moi, parce que aussi le point de départ, c'est-à-dire cet enfant qui est dépité de ne pas voir l'adulte éducateur lui accorder suffisamment d'importance, va se venger d'une certaine façon en inventant. Je ne dirais pas qu'il ment. Les enfants ne mentent pas.
C'est répété.
Ce sont les adultes qui mentent. Ouais. Les enfants ne mentent pas. Ils imaginent, ils brodent. Et la grande faute des adultes, et qui est quand même ici massivement suivie, mais dans la réalité, c'est vrai, on en a eu des exemples, c'est d'écouter ces divagations de l'enfant. Donc, moi, je reste un petit peu sur ma faim jusqu'au dernier plan du film. Le dernier plan du film me paraît justifié à lui seul, et je ne dirais pas pourquoi, de voir ce film tout de même.
Oui, je ne suis pas complètement là-dessus, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément qu'un film soit ambigu pour qu'il soit bon, et les personnages dans ce film ne sont pas manichéens, hein, ils ne sont pas bons et mauvais. En fait, c'est l'engrenage qui les transforme en monstres. Et c'est, à mon avis, la force du film, c'est ce qui fait froid dans le dos, c'est que ça peut arriver finalement à n'importe qui. Tatiana, qu'en penses-tu ?
Moi, je n'ai pas du tout aimé ce film. Je trouve qu'il est simpliste. Je trouve que la réaction de cette communauté, ils vivent tous les uns sur les autres, ils vont les uns chez les autres, ils se fréquentent, c'est vraiment une communauté très unie. Et puis, brusquement, sans aucun sens critique, quand naît la rumeur, eh bien tous, ils se transforment en bourreaux. C'est-à-dire que la sentence, la punition est tout de suite, il est tabassé, il est rejeté, mais c'est d'une violence absolument extrême. Comment croire qu'un an après, tout ça est effacé et tous sont redevenus les meilleurs amis du monde, tout va bien, jusqu'à la scène finale, qui prouve que la rumeur, il en reste toujours quelque chose.
Oui, c'est peut-être pas si simple que ça.
Oui, c'est peut-être pas si simple que ça. En même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les adultes ont été extrêmement naïfs. C'est-à-dire que tout de suite, on a cru les enfants. Elle s'exprime dans des termes absolument ignobles, cette petite fille. Des mots qu'elle a entendus de son frère. Et ça n'étonne absolument pas les adultes que de ce vocabulaire. Et en plus, la directrice s'érige en policier. Et en réalité, c'est elle qui va commencer à mener une petite enquête et prévenir tout le monde. Donc je pense que là c'est tout à fait discutable parce que une situation comme ça devrait être prise un peu plus au sérieux, je crois.
C'est discutable, mais d'un autre côté ça illustre assez bien au fond la lâcheté collective, quoi. Ouais. Chacun ouvre le parapluie pour ne pas être accusé. passons au-delà des collines où on va trouver d'ailleurs, évidemment le film est très différent, mais un même enchaînement destructeur dans le film de Christian Mungiu. Le bouleversant 4 mois, 3 semaines et 2 jours qui a vu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2007, Christian Mungiu continue d'explorer les drames de la société roumaine contemporaine. Le film a d'ailleurs reçu au dernier Festival de Cannes le prix du scénario et ses deux interprètes principales ont été récompensées, elles, par le prix d'interprétation féminine. C'est un film long qui est exigeant, il dure 2h30, moi que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est un film qui est issu d'un fait divers qui s'est passé en 2005 et il se passe dans un monde de clos. Un monastère orthodoxe où quelques nonnes vivent autour d'un prêtre et de son épouse. Et parmi ces nonnes, Voichita, que son amie Alina vient chercher pour l'emmener en Allemagne où elle a immigré. Mais l'amour profane d'Alina va se heurter à la passion, on pourrait dire, religieuse ou mystique de Voichita. Et l'obstination hystérique de l'une, la faiblesse de l'autre, l'incompétence des autorités, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou civiles, vont conduire au drame. Alors, Jean-Michel, as-tu aimé ce film ?
Oui, j'ai aimé ce film avec mesure. En le revoyant, j'ai été moins enthousiaste pour lui, mais tout de même, il n'éteint pas la passion que le cinéma roumain, comme le cinéma iranien dont on parlait tout à l'heure, éveille en nous, puisque avec Mungiu, c'est aussi Cristi Puiu et sa mort de Dante Lazarescu, et puis Corneliu Porumbuiu avec Policier Adjectif, qui nous ont émerveillés en leur temps. Donc c'est un très beau sujet, c'est vrai, qui est tiré de deux romans non fictionnels de l'auteur roumain Tatiana Niculescu-Bran et qui sont inspirés, comme tu l'as dit Jacques, d'un fait divers qui s'est réellement passé en 2005 en Roumanie. Alors dans le film, tu as donné les éléments du synopsis. Effectivement, ces deux jeunes filles qui sont deux jeunes filles comme dans 4 mois, 3 semaines, et qui vont essayer d'influer l'une sur l'autre et de s'entraider, avec un retournement assez intéressant dans ce film-ci. Mais le conflit de désir entre les deux, Alina qui a manifestement une passion à connotation homosexuelle pour Voichita, et Voichita qui est toute dévouée à Dieu, ne vont pas faire bon ménage. Et histoire va se passer dans un monastère extrêmement rigoriste, bien que bienveillant et qui n'est pas caricatural, avec un pope qu'on appelle papa, avec une mère supérieure, si on peut dire, qu'on appelle maman, il y a une structure familiale, mais petit à petit, le comportement de cette Alina va provoquer une réaction de rejet, elle-même va s'hystériser, et on va glisser petit à petit vers une espèce de processus qui va être tout à fait ancestral et qui est celui de l'exorcisme. Et on ne s'attendait pas au début à voir ce déroulement-là. Alors ce qui intéresse le réalisateur, c'est justement ce caractère de débat moral et dans le cadre de ce monastère, avec ses extérieurs neigeux, notamment à partir de la deuxième moitié, et avec les clairs-obscurs dont il dispose, nous sommes fascinés par ce qui se passe.
Alors, Tatiana.
Moi, je trouve que ce film est d'une grande beauté formelle. C'est presque un film en noir et blanc. Le blanc immaculé de la neige, le gris des bâtiments, le noir des longs vêtements des nonnes et du peuple de cette communauté orthodoxe. Les seules notes de couleur, j'aurais envie de dire qu'elles viennent des rebelles. Et il est intéressant de voir Wojcicza, à la fin du film, revêtir le pull beige de son ami. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, l'opposition du noir et du blanc, la lutte du bien et du mal. Le détenteur de la vérité sur cette lutte, c'est le pop, un géant omniscient, omnipotent, seul mâle de la communauté. La vie quotidienne est réglée par ses diktats. Aucune chance de libre arbitre pour ces femmes. La règle absolue, c'est la prière et l'obéissance. Cette passion mystique ne laisse aucune place à l'amour profane qui aurait pu sauver Alina, la rebelle. Quand Wojcicza enfin un sursaut, il est déjà trop tard. Alors moi, il y a une scène que j'aime bien, c'est une scène forte qui montre les nonnes qui, pour guider Alina, la nouvelle venue, pour ses confessions, lui lisent un guide des péchés. Il y en a plus de 400. Et comme dans le Larousse médical où on se reconnaît dans toutes les maladies, Alina se sent coupable de tous les péchés.
Oui, on ne le lira pas à la radio, mais c'est vrai que cette liste des péchés, vous êtes sûr de pratiquement tous pouvoir cocher. Oui, c'est une scène forte. Il y a beaucoup de scènes fortes dans ce film qui est, d'ailleurs, on retrouve les cadrages de Munju, c'est-à-dire des longs plans fixes, soit au contraire assez aérés comme à l'hôpital ou dans les scènes de repas, etc., soit au contraire extrêmement oppressants comme les nonnes essaient de maîtriser Alina quand elle a ses crises d'hystérie. Elisabeth, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, alors à première vue, Au-delà des collines semble un peu moins accessible que 4 mois, 3 semaines et 2 jours, son précédent film, qui était une peinture glaçante de la Roumanie sous Ceausescu. Maintenant, il témoigne un petit peu de problèmes, peut-être hérités du passé, mais en tout cas, cette histoire s'est déroulée en 2005. Hein, et ce film fonctionne quand même sur la même jonction cinéma d'horreur et cinéma d'auteur. Pour moi, ce film m'a vraiment impressionné. Il est doublé à la fois d'une variation sur une crucifixion au sens propre comme au sens figuré d'une histoire d'amour interdite, mais personnellement j'étais extrêmement éprouvée et peut-être qu'il a été conçu pour être un grand film, peut-être que c'est un grand film, pour moi il manque beaucoup de mystère. Il brosse là le portrait de femme dans un environnement extrêmement hostile qui traite très très peu du sentiment de culpabilité, qui porte beaucoup sur l'amour, mais au final, il n'y en a pas beaucoup dans ce film. Il porte sur les actes et les choix que les gens font au nom de leurs croyances, sur la difficulté de distinguer le bien et le mal, l'interprétation littérale de la religion, l'indifférence en tant que péché, plus grand que l'intolérance sur le libre arbitre, avec une première partie que j'ai trouvée, moi, beaucoup trop longue, malgré de très beaux cadrages, des lumières, des grands plans séquences, et dans lequel on retrouve les parallèles avec ces jeunes filles dans cette chambre très seule, aux prises avec un homme, comme dans son premier film. Et cet homme-là, c'est le père supérieur du couvent. Moi, ce film m'a complètement épuisée, hein. Même si il tente de nous transmettre un message sur le dilemme de foi-amitié qui oppose une passion mystique à un amour profane.
Un film épuisant donc, mais un film très beau quand même. Alors, nous avons le temps pour peut-être quelques coups de cœur. Tatiana?
Oui, alors moi, c'est le film Rangan. Roméo aime Juliette et Juliette aime Roméo. Elle, c'est Sabrina, une jolie beurette, et lui, c'est Dorcy. Il est noir et chrétien, elle est arabe et musulmane. Où est le problème, me direz-vous, au XXIe siècle à Barbès? Mais voilà, comme à Venise, les familles ne sont pas d'accord, pas plus la mère africaine de Dorcy que les 40 frères de Sabrina, dont Slimane, le grand frère, gardien de la tradition, se lance dans une croisade pour empêcher ce mariage. Et c'est parti pour 1h15 de fougue et d'inventivité, de tragédie et d'humour. Beaucoup d'originalité dans ce film qui échappe aux clichés sur les affrontements communautaristes. et surtout une énergie débordante qui fait pardonner quelques facilités de scénario et des plans où la caméra devient hystérique sans autre utilité que d'aiguillonner le spectateur en lui infligeant une dose d'adrénaline. De l'énergie, il en aura fallu au réalisateur qui a mis 9 ans pour arriver au bout de ce film. Rachid Jaidani, retenez bien ce nom, vous allez en entendre beaucoup parler à mon avis.
Oui, c'est vrai.
Donc une bonne comédie pour nous détendre un peu des films lourds dont on a parlé aujourd'hui. Elisabeth, tu voulais nous parler d'un autre film.
Ouais, je vais vous détendre aussi un petit peu. On approche de Noël et je vais penser aux enfants avec la sortie le 12 décembre seulement de Ernest et Célestine. Ernest et Célestine, c'est l'histoire d'une rencontre improbable entre une petite souris abandonnée et un gros ours bien bourru. On a là un petit bijou signé d'un jeune réalisateur, Benjamin Reiner, qui aurait bien mérité la caméra d'or d'ailleurs, hein, et un scénario de Daniel Pénac. C'est un film merveilleux dans des couleurs pastel. On a vraiment l'impression de se balader dans des aquarelles de Marie Laurencin. C'est porté par Pauline Brunner en Célestine et un Lambert Wilson époustouflant et méconnaissable en Ernest. Donc allez voir ce film, amenez vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, votre boulangère et vous passerez un merveilleux moment. Et pour les plus petits, à partir de 2 ans, la balade de Babouchka, c'est une balade animée à travers la Russie. 4 courts-métrages avec des histoires de Zahirka, une petite fille, des rossignols, des biquettes, voilà, à partir du 12 décembre aussi.
Merci Elisabeth pour ce moment de fraîcheur. Donc je crois qu'on est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Tatiana, Elisabeth et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les 4e vendredis du mois de 14h à 14h30 et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 28 décembre pour parler des films qui sortiront avant la fin de l'année.